Radio Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Ouverture cet après-midi à Kinshasa du sommet de chefs d'État africains sur la masculinité positive. Pendant 7 ans, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, appelle à l'élimination des violences sexuelles faites aux femmes en cette période où le coronavirus a exacerbé les inégalités. Reprise des cours à Beni au Nord Kivu, les enseignants avaient arrêté lundi dernier le travail pour exiger un procès contre un officier des FARDC qui avait tabassé un enseignant de l'Institut Bungulu. Notre invité, c'est Baudouin Mparagni Mouroula. Il est l'un des initiateurs de la proposition de loi sur les indemnités de chômage. Le document a été remis à la primature pour enrichissement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. La RDC est l'un des pays africains le plus touché par les violences sexuelles basées sur le genre depuis plus de 2 décennies à la suite des affres des groupes armés. Déclaration faite ce jeudi après-midi à Kinshasa par le président de la République au début du sommet des chefs d'État sur la masculinité positive. Ce concept fait référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes, mais dépourvus de violence et engagés dans la promotion de l'égalité de genre. Dans sa double casquette de chef de l'État congolais et de président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo a fustigé les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre dans les conflits armés. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irungmouchi.
Malgré ces efforts consentis par tous, la courbe de la violence faite aux femmes et aux filles reste quasi linéaire. Pire encore, dans les zones à conflit, la violence envers les femmes et les filles est utilisée comme arme de guerre et comme moyen d'expression la plus brutale, systémique, sournoise, voire perverse, pour déstructurer les communautés. En effet, force est de constater que les politiques et programmes mis en place à ce jour n'ont pas permis de transformer les inégalités structurelles et institutionnelles qui conduisent à la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette situation exige des actions d'envergure, innovantes et accélérées, pour inciter tous les acteurs de la société à participer activement aux efforts visant à éradiquer ce désastre. Les hommes occupant des postes à responsabilité ont un rôle particulièrement important à jouer pour influencer d'autres hommes à se mettre d'accord sur les stratégies efficaces et efficientes pour prévenir et mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles en Afrique.
L'élimination des violences sexuelles faites aux femmes doit être une priorité, surtout en cette période où la pandémie du coronavirus a exacerbé les inégalités. Cette requête a été formulée ce jeudi à Bukavu par le docteur Denis Mukwege à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le plaidoyer du prix Nobel de la paix est contenu dans une déclaration dont le condensé nous est proposé de Bukavu par Cynthia Bachizina Bizana.
Le docteur Mukwege a identifié ce qu'il qualifie d'arme utile des agresseurs, le silence. Voilà pourquoi il faut briser ce silence. De quelle manière? D'abord, les victimes sont encouragées à porter plainte contre leur bourreau, mais aussi les témoins des agressions doivent dénoncer ces actes. Il faut pour cela mettre fin à la culture de l'impunité. Tout simplement parce que, de l'avis de Denis Mukwege, les violences faites aux femmes constituent les plus graves violations des droits humains. Mais ces actes sont évitables et l'un des outils le plus efficace pour lutter contre ce fléau est l'éducation qui doit commencer dès le plus jeune âge, précise le docteur Mukwege. Ce n'est pas tout. L'éducation doit s'accompagner d'une réelle volonté politique pour supprimer toutes les lois rétrogrades relatives aux droits humains des femmes et adopter en lieu et place des lois progressistes. Celui que l'on a surnommé l'homme qui répare les femmes plaide ainsi auprès de pouvoirs publics pour la mise en œuvre d'un programme de prise en charge holistique. Et cela inclut une assistance psychologique, médicale, socio-économique et légale. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la reprise des activités dans les écoles de Beni au Nord Kivu. Le syndicat des enseignants avait arrêté le cours pour exiger un procès contre un officier des FARDC qui avait tabassé lundi dernier un enseignant de l'Institut Bungulu. Le secrétaire permanent du CIECO affirme à Radio Okapi que les enseignants ont convenu de reprendre le travail, mais ils insistent pour que la procédure judiciaire soit accélérée. Christophe Kanyamboué est au micro de Guylaine Kassassia.
Après ce dégât qui est arrivé, finalement, nous avons dit qu'il fallait qu'on retourne à l'école et encadrer les affaires. Surtout que le colonel, il est déjà arrêté, il est en train d'être auditionné. Nous avons pensé que les restes des réclamations seront en train d'être suivis pendant que nous serons aussi en train d'encadrer les affaires à l'école. S'il arrivait que la justice s'amuse de ces dossiers, en tout cas, il y aura paralysie puisque nous ne pouvons pas supporter cette humiliation. C'est puisque la justice nous a garanti que le dossier est en instruction, c'est seulement que les services compétents pour juger le colonel n'est pas sur place. C'est pour cela que nous avons cru qu'en attendant que ces services arrivent et qu'on soit en train de documenter pour charger le colonel, alors nous pouvons être en train d'enseigner les affaires. Il n'y a nulle part au monde où on peut supporter ce que le colonel est venu faire dans les écoles. Gifler l'enseignant dans sa salle de classe pour un simple téléphone. Ça passait par le bureau des directeurs des études, ça passait par la préfecture. En tout cas, on ne peut pas supporter une telle humiliation.
Et au Maniema, les filles et les garçons doivent aller à l'école dans le respect des mesures barrières. Pour cela, le ministre provincial de l'Éducation a lancé hier après-midi la campagne de scolarisation de ses enfants, même si l'année scolaire a commencé avec retard en septembre dernier. À Kindu, Florence Kizalunga.
Cette campagne des mois vise à sensibiliser les parents et la communauté pour qu'ils envoient les enfants sans discrimination à l'école. Selon la Point Focal, le projet École primaire de qualité, une assistance en termes de dons est prévue à la sous-division de Kailo comme zone de convergence. Magui Foura.
Kailo, c'est une zone de convergence. Il y a des kits scolaires qu'on va distribuer aux nouveaux entrants, les enfants de première année. Il y a des petits sacs scolaires, tout ça, on va distribuer aux enfants. À Kindu, c'est juste la sensibilisation parce que vous allez voir même dans d'autres composantes, c'est Kailo comme zone de convergence et toutes les interventions à l'instant se focalisent là même à Kailo.
Pour l'assistant technique éducation et protection de UNICEF, l'appui de son organisation vise à garantir l'accès à l'apprentissage de qualité et inclusif, le respect et la promotion des droits de tous les enfants. Rémi Kibamba.
Dans l'optique d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants sans discrimination, l'UNICEF a bien voulu appuyer les PST Maniema en vue de lancer cette campagne d'inscription des enfants à l'école. En cette période où le monde entier est en alerte par rapport à cette pandémie à coronavirus.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Dans la province du Puy-Loup, une maladie non identifiée a coûté la vie à 300 enfants de moins de 10 ans en l'espace de 3 mois dans le territoire de Gungu. Le ministre provincial de la Santé affirme à Radio Okapi que la riposte organisée depuis quelques semaines par la province ne suffit plus. Bena Mutui demande par conséquent l'intervention du gouvernement central, la situation étant devenue inquiétante. À Bandundouville, Irène Bomain.
C'est depuis la fin du mois d'août dernier que cette maladie ayant des signes cliniques semblables à celle du paludisme a commencé à sévir dans les territoires de Gungu, précisément dans la zone de santé de Mukedji puis de Gungu. Les personnes les plus touchées restent les enfants de moins de 10 ans et les 6000 des cas à ce jour est de 10 418 dont 343 décès, a fait savoir le ministre provincial de la santé du Kwilu. Docteur Benamutui qui parle de la riposte et des difficultés irrelatives sollicite les intervention du gouvernement central.
La réponse que nous avons mise en place, des traitements est gratuit, les malades viennent nombreux, mais nous avons quelques difficultés. Les problèmes deviennent de plus en plus complexes. La capacité de l'IPOS commence à nous dépasser. C'est quoi, il y a Sanru qui a provisionné un médicament et un train. L'UNICEF avait aussi appuyé en médicaments, mais avec l'afflux des malades et la quantité de médicaments restés dans les deux zones de santé, va peut-être couvrir 2 semaines. Après 2 semaines, on sera en difficulté. Ça demande beaucoup de moyens. C'est comme ça que nous sollicitons l'appui du gouvernement national et de tous les partenaires pour qu'ils luttent ensemble.
Notez que pour le ministre Benamoutoui, la grève des professionnels de santé, dont les infirmiers, reste aussi l'une des difficultés rencontrées dans cette lutte. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis en Ituri, des milliers de déplacés installés dans sept sites du territoire de Djougou vivent dans une psychose suite aux menaces d'attaques des miliciens de la CODECO. Selon la société civile du territoire de Djougou, cette psychose est observée depuis l'attaque survenue dimanche dernier sur les sites de déplacés des Drodro. Une attaque qui avait fait au moins 30 morts. La structure citoyenne demande au FRDC de renforcer leur présence dans la zone. À Bounia, Martial Kizaibiamungu.
Ces menaces d'attaque de sites de déplacés dans les territoires des Djougou sont prises au sérieux depuis l'incursion de la milice CODECO à Drodro le dimanche dernier. Les cibles probables des assaillants sont les sites de Djaïba, Ro, Boulé, Tché, Jina et Lopa. La société civile du territoire des Djougou indique que des messages en provenance des assaillants de la CODECO circulent dans les sites de déplacés pour annoncer leurs attaques dans les prochains jours.
Il y a les messages que les miliciens des CODECO envoient face dans les cas déplacés. Alors ça alerte les gens.
Certains déplacés salient cependant la présence des casques bleus de la MONUSCO à côté de certains sites. Mais ils plaident pour que les militaires des FRDC soient déployés en renfort. Dido de Baimouka est le secrétaire du site de déplacés d'Euro.
Même la nuit, il y a eu une probable attaque de la part des CODECO. Il y a des menaces. Il faut que les autorités sécuritaires puissent renforcer la sécurité.
Les FRDC rassurent. Leur porte-parole à l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo demande par contre aux déplacés de rester vigilants et d'alerter les forces de sécurité sur tout mouvement suspect pour permettre aux FRDC d'intervenir rapidement. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 12 des 26 aires de santé de la zone de santé d'Oicha ne sont pas opérationnelles à cause de l'insécurité. Le personnel soignant a quitté la zone et de nombreuses structures médicales ont été détruites par des groupes armés. Cette nouvelle est annoncée par le Centre pour la promotion des droits humains et confirmée par le médecin chef de la zone de santé. À Beni, Marc Marofimbo.
À en croire le Centre pour la promotion des droits humains, seules 8 aires de santé fonctionnent correctement. 6 aires de santé seraient en train d'être fermées et 12 ne fonctionnent plus. L'organisation note que plusieurs structures sanitaires dans la zone de santé d'Oicha ont été saccagées, pillées et incendiées par des hommes armés, notamment les rebelles EDF, qui attaqueraient régulièrement ces centres de santé pour se ravitailler en médicaments. Une importante partie du personnel soignant aurait aussi quitté cette partie du territoire de Beni. Toujours selon le CPDH, certains soignants auraient été kidnappés par les groupes armés qui opèrent dans la zone. Cette absence de structures sanitaires a des conséquences sur la vie de la population restée sur place. Une grande partie de la population n'arrive pas à se faire soigner correctement. Les centres pour la promotion des droits humains demandent à l'armée d'imposer la paix et la sécurité dans la zone de santé rurale de Oicha pour permettre au personnel soignant de regagner la zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, les autorités annoncent la suspension de la connexion Internet pour une durée de 4 jours. Cette décision gouvernementale intervient alors qu'un convoi militaire français est toujours bloqué dans le pays et qu'un appel a manifesté samedi prochain contre la présence française et la politique sécuritaire du gouvernement a été lancée. Et puis en Égypte, la Cour de cassation a confirmé ce jeudi après-midi la peine de mort pour 22 djihadistes dont l'un a déjà été exécuté pour une autre affaire. Ils avaient été condamnés pour une série d'attentats qui avaient fait 340 morts et blessés depuis 2013. Enfin, en France, le ministre de la Santé publique a précisé que ni le confinement ni le couvre-feu n'étaient envisagés par le gouvernement. La campagne de rappel vaccinal est élargie à l'ensemble de la population adulte et ce, 5 mois après la dernière injection.
L'invité.
Notre invité, c'est Baudouin Mparagni Mouroula. Il est l'un des initiateurs de la proposition de loi sur les allocations et indemnités de chômage. Le document a été remis à la primature ici à Kinshasa pour enrichissement. Il s'entretient avec Emmanuel Elmejo Kabedi.
Monsieur Baudouin Mparagni, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez tenu une conférence sur la proposition de loi portant allocation et indemnité de chômage en RDC. Comment vous en êtes arrivé là d'abord? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Oui, évidemment, la jeunesse de la paroisse, c'est notre dame de la miséricorde. Ils nous ont consultés afin que nous puissions échanger avec le jeune de Timbunda sur cette proposition de loi portant allocation et indemnité de chômage dont je suis l'initiateur. Évidemment, nous sommes basés sur deux articles de notre constitution. Il y a l'article 58 qui parle de la redistribution des ressources du pays. Il y a aussi l'article 36 qui parle de la protection du peuple congolais contre le chômage. C'est ainsi que nous avons réfléchi sur comment est-ce que l'État peut envisager la redistribution équitable des ressources de notre pays à travers cette proposition de loi. Nous parlons ici des allocations et indemnités chômage. Pour les allocations chômage, nous visons les sans-emploi qui détient un titre académique. Et pour les indemnités chômage, nous visons ceux-là qui ont déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi par démission ou bien par licenciement.
Vous pensez que ces deux catégories sont faciles à identifier sur l'ensemble du pays?
Oui, c'est pourquoi dans notre proposition de loi, nous avons proposé à l'État qu'il puisse commencer par identifier le chômeur. Nous avons réfléchi sur la création d'un nouvel organe public. Dans notre proposition de loi, nous proposons à l'État qu'il puisse créer un nouvel organe public qui va aider, n'est-ce pas, l'Office national d'emploi dans l'identification de chômeurs dans l'esprit de cette proposition de loi que nous proposons à l'État.
Mais vous pensez seulement à deux catégories qui peuvent être traitées comme chômeurs ici? Les diplômés de 6 ans qui n'ont pas du travail, qui ne peuvent pas continuer au niveau supérieur, ne sont pas aussi des chômeurs?
Cette question est très pertinente. Nous en avons même discuté pendant 2 mois avec l'équipe de nos camarades de lutte à travers la province. Vous savez, dans notre pays, nous sommes estimés le chômeur à peu près au-delà de 2 millions de chômeurs. Et ceux-là qui n'ont pas étudié et ceux-là qui ont étudié. Alors nous sommes dit, au lieu de proposer à l'État une mer à boire, il fallait d'abord essayer un peu de commencer sur quelque chose. Parce que un texte, lorsqu'il est adopté, plus tard, ça peut être amendé. C'est ainsi que nous avons dit, c'est mieux de commencer par les chômeurs qui détiennent un titre académique dans un premier temps. C'est là, ça va aussi changer au fil du temps. Parce que il faudrait réfléchir dans le sens que lorsqu'on demande beaucoup, on risque de ne rien avoir. Mais aussi, l'esprit de cette proposition de loi est de pouvoir inciter le jeune de poursuivre les études universitaires.
C'est parce que on sait que généralement, l'université ne forme pas les demandeurs d'emploi, mais forme les chercheurs. Aujourd'hui, on est en train d'insister dans la communauté que les jeunes soient eux-mêmes créateurs d'emploi au lieu d'être demandeurs d'emploi. Quelqu'un qui a fini et qui se débrouille dans l'informel, qui a installé sa petite entreprise quelque part, il se considère toujours comme chômeur ou celui-là, il ne l'est pas?
C'est un chômeur déguisé. C'est un chômeur déguisé. Vous savez, l'entrepreneuriat dans notre pays, c'est un défi. Parce que vous ne pouvez jamais aller dans une banque ou bien à l'FPI, vous jeune qui vient de finir les études universitaires, vous détenez un projet et vous vous présentez à la banque pour demander un soutien, des crédits à votre projet. Jamais cette banque peut vous financer pour vous assister si vous n'avez pas de gages. Alors nous avons réfléchi dans ce sens. Lorsque le jeune diplômé finisse les études universitaires, et que vous avez la possibilité de créer une activité lucrative, au lieu de tergiverser sur les banques, sur à l'FPI, le peu de moyens à travers les allocations et indemnités chômage, ça va vous servir non seulement à pouvoir vous financer dans la recherche d'emploi, mais aussi ça va vous aider à vous financer certaines activités lucratives que vous pouvez initier. Alors, le peu de moyens que nous proposons dans cette proposition de loi qui contient 29 articles, ça va leur permettre évidemment de pouvoir se prendre en charge et aussi de s'intégrer dans la société. Notre dossier se trouve au cabinet du Premier ministre. Il est enregistré au numéro 23-255 à la primature, au service courrier. Nous sommes sûrs qu'il va nous appeler et nous inviter afin que nous puissions approfondir cette question de la proposition de loi portant allocation et indemnité chômage.
Monsieur Baudouin Paranimorola, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Baudouin Mparagni Mouroula. Il est l'un des initiateurs de la proposition de loi sur les allocations et indemnités de chômage dont le document a été remis à la primature pour enrichissement à Kinshasa. Il était interviewé à Bukavu par Emmanuel Elamejo Kabedi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-les sur www.radiokapi.net.